Ouais, salut, c'est Vincent de Ploubazlanec. C'était pour réagir par rapport à un commentaire. Outre la pollution des serres lumineuses pendant la nuit, il faudrait aussi rajouter le fait qu'en fin de saison, les tomates poussent sur ce qu'on appelle un substrat qui est constitué de paille de coco et de laine de roche, et qu'en fin de saison, bah, tout ça s'est mélangé dans les champs. Voilà, il y a peut-être mieux à faire que ça. Allez, salut.
Sylvie de 7, autre petite bande de 68 arts ici à 7, qui se battent pour le projet de parking souterrain sous la place du kiosque. Un projet qui est une fois de plus une atteinte à l'urgence climatique, puisque c'est une dégradation de la vie sociale qui nous attend, qui va coûter, ça va être exorbitant. Et puis encore davantage de voitures en centre-ville, c'est complètement aberrant. Au revoir.
Oui, François, Pays de Gex, près de Ferney-Voltaire. Je me décide à vous rapporter la version d'un ami qui est natif des Abruzzes. Il m'avait dit, en parlant de la défense des troupeaux de moutons, que là-bas, ils n'avaient pas du tout peur des loups. Ils avaient une race de chiens largement équivalente à la stature des loups en souplesse et en force. Ils ne craignaient pas du tout les attaques des loups. Donc, ajouté à la version de l'autre auditeur parlant des lévriers, il me semble que les éleveurs de moutons n'auraient plus rien à craindre avec ces chiens-là. Je peux vous dire que c'est des sacrés animaux. Peut-être que ça pourrait solutionner des choses. Au revoir.
Oui, bonjour, Françoise en Bourgogne. Je viens de voir un reportage sur une usine de papier recyclé qui est en difficulté à cause de la montée du prix de l'essence et du gasoil. Je ne savais pas qu'une usine comme ça utilisait autant d'essence. Quel est le bénéfice de fabriquer du papier recyclé si on doit consommer autant d'énergie non renouvelable? Bonne journée, au revoir.
Bonjour la Terre au carré, Jacques de Saint-Maur-des-Fossés. Je suis bien convaincu depuis longtemps qu'il faut réduire la pollution et les émissions de CO2, notamment en ville, en limitant l'usage des véhicules individuels et surtout ceux à moteur thermique. La voiture électrique est une solution pour les déplacements urbains, mais peut-on la généraliser à marche forcée alors que l'électricité des batteries provient à 38% du charbon et 23% du gaz et que l'autonomie de ces voitures dépasse rarement 250 km? Que dire aussi de l'énergie nécessaire pour produire les métaux rares des batteries et les recycler? Et que fait-on contre les 44 tonnes si gourmands en gazole qui sillonnent l'Europe et d'autres continents dans tous les sens? Merci à vous.
Et merci pour vos messages, Jacques, au sujet de la voiture électrique. D'ailleurs, je vous renvoie à deux terreaux carrés que nous avions consacrés à ce sujet, ainsi qu'à l'exploitation du lithium pour les batteries, pour découvrir la réalité écologique, là que vous avez décrit dans ce message. Réalité donc qui se cache derrière ce qu'on présente comme la voiture propre. Ces deux émissions sont toujours disponibles à la réécoute sur le site de l'émission. Et puis, bien sûr, pour vos messages, sur le répondeur de la terreau carré, un seul numéro, c'est le vôtre, le 01 56 40 45 45. En 50 ans d'exploration spatiale, la planète Mars représente pour les scientifiques un hotspot dans le système solaire, un des nombreux objectifs étant de découvrir justement des traces de vie sur la planète rouge. Car même si Mars est aujourd'hui très différent de la Terre, nos deux planètes ont en commun un passé lointain qui a été propice à l'émergence et au développement de la vie. Toutes les formes de vie que nous connaissons sur notre planète ont un dénominateur commun, l'eau liquide et le carbone. Et justement, deux publications qui viennent de paraître montrent qu'une grande étendue d'eau liquide était présente sur Mars il y a 3 milliards d'années et que la matière carbonée est toujours présente dans le sol martien. Alors que nous disent ces deux découvertes sur la recherche des traces de vie sur Mars? Eh bien c'est le dossier de la Terre au carré avec nos invités que je salue, le planétologue Frédéric Schmitt et la chercheuse Caroline Frayssinet. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue Frédéric Schmitt, vous êtes spécialiste en géologie des surfaces planétaires, ça a de la gueule, vous travaillez au laboratoire Géops de l'université de Paris-Saclay, et Caroline Frayssinet, c'est pas mal non plus. Vous menez vos recherches au CNRS en astrochimie au laboratoire LATMOS, c'est le laboratoire atmosphère et observation spatiale. On va donc parler de l'eau liquide et du carbone sur Mars pour comprendre ce que ça nous dit de la recherche des traces de vie sur la planète rouge, et vous allez répondre aux messages des auditrices et des auditeurs sur la page de la Terre au Carré, les réseaux sociaux et l'appli France Inter avec vos notes vocales. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
On passe au vert à 14h30, ou plutôt au noir.
Hein. Oui, marée noire au Pérou. Alors d'après Repsol, le géant du pétrole qui est propriétaire du bateau, ce serait la faute au volcan des îles Tonga, de l'archipel des Tonga, mais c'est bien plus compliqué que ça.
Eh bien, on en saura plus avec vous tout à l'heure. Voilà pour le sommaire de cette émission que réalise Valérie Ayestaraï. Anna Massardi a préparé le dossier et Jenab Sangaré est à la technique.
Mathieu Vidard, la Terre au Carré, sur France Inter.
Votre attention s'il vous plaît, le premier forage sur Mars est un succès.
Quand les images sont arrivées, on a vu quelque chose de gris. Le sous-sol n'a pas cette couleur rouille que l'on voit partout sur Mars. Quand on voit cette terre grise, on voit qu'il reste quelque chose. Tout n'a pas été détruit.
Et c'était le 8 février 2013, donc le rover Curiosity réalisait son premier forage martien pour analyser donc la poussière de roche pour y découvrir d'éventuelles preuves de vie passée. Le trou avait atteint 6 cm de profondeur à l'époque et le forage avait été piloté depuis la Terre, donc par la NASA. Caroline Fraissinet, c'était un petit événement quand même, ça, cette prouesse technologique, non ?
Oh, c'était pas absolument un petit événement parce qu'effectivement, forer dans le sol martien, c'est quand même relativement difficile. Même quelques centimètres. Et surtout, comme on l'a entendu, on s'est rendu compte que la couleur du forage était différente de la couleur de surface. Et donc, cette couche de poussière en surface, elle est vraiment minimale. Et en dessous de cette couche et dans les roches, on a des éléments différents qui sont beaucoup plus protégés par rapport à juste la surface. Donc oui, prouesse technologique et événement scientifique.
Voilà, donc direction la planète Mars avec vous cet après-midi. Donc à ma droite, le représentant de l'eau liquide martienne. On va faire les choses comme ça pour bien comprendre le planète. Frédéric Schmitt et donc à ma gauche l'avocate du carbone martien, vous Caroline Fraissinet. Lorsque l'on parle justement de recherche de vie sur Mars, qu'est-ce qu'on recherche Frédéric Schmitt exactement? Alors c'est des traces anciennes ou des traces actuelles?
Alors l'eau sur Mars, évidemment c'est une question qui date depuis très longtemps.
Et la vie surtout sur Mars.
La vie sur Mars est associée à cette question-là. Et donc les premières traces, c'est Schiaparelli qui les a observées à la fin du 19e siècle, qui a observé des canaux en fait, et il a attribué ces canaux comme étant l'apparition d'une civilisation martienne. Alors évidemment aujourd'hui on n'est plus du tout dans ce scénario-là, il n'y a pas de vie martienne. L'exploration spatiale dans les années 60 ont bien montré que Mars est un désert, mais par contre effectivement en 1972, surprise, on a observé des réseaux de vallées, c'est-à-dire en fait des petites rivières qui se jettent dans des plus grandes rivières, ce que vous connaissez sur Terre, et évidemment ça veut dire qu'il y a eu du liquide et donc de l'eau liquide. Par contre, ce sont des traces qui sont très anciennes. Mmh. On sait qu'elles sont anciennes parce que il y a des cratères qui se sont superposés par-dessus, et donc aujourd'hui on sait qu'elles ont 3-4 milliards d'années.
Donc on essaie de comprendre le passé, mais est-ce que pour autant on n'est pas très intéressé pour essayer de tomber sur des traces biologiques aujourd'hui?
Alors les traces biologiques, effectivement, on va essayer de les chercher dans des endroits qui vont récupérer en fait une énorme quantité de matière. Et en général, c'est les roches sédimentaires qui nous intéressent, parce que les roches sédimentaires ont des sources dans plusieurs zones de Mars. Et puis, elles sont concentrées dans ces roches sédimentaires. Donc, c'est ces roches sédimentaires qu'on va essayer d'observer. Après, par contre, pour les signatures biologiques, ma collègue sera plus aura des réponses plus précises. Sur cette question particulière.
Caroline Fraissinet, pourquoi Mars alors, parmi toutes les planètes du système solaire, puisque elles ont un passé commun, on le disait tout à l'heure, mais elles sont quand même très différentes aujourd'hui entre Mars et la Terre?
Oui, déjà je voudrais préciser une chose pour commencer, c'est qu'on n'a jamais trouvé de traces de vie en dehors de la Terre jusqu'à aujourd'hui. Et finalement, Mars, c'est une planète qui est relativement proche, donc c'est facile d'y aller. Aujourd'hui, sur Mars, on a
hyper 8... facile d'aller sur Mars.
C'est simple avec nos technologies actuelles. Non, c'est très compliqué. Hein. L'Europe n'a jamais réussi à atterrir pour l'instant sur Mars. On en parlera plus tard peut-être
ExoMars.
Mais pour l'instant, il y a très peu de nations et particulièrement les Américains qui ont réussi à atterrir sur Mars et depuis peu la Chine. Et donc Mars, c'est la planète qui est suffisamment proche pour pouvoir aller faire des explorations qu'on appelle in situ, c'est-à-dire aller sur Mars, prendre des échantillons, les analyser pour vraiment regarder ce qu'ils ont dans le ventre. Et l'autre donc que vous l'autre argument pour aller sur Mars, que vous dites que Mars et la Terre ont un passé commun, un passé lointain, un passé d'il y a 4 milliards d'années, où sur Mars il y a 4 milliards d'années, on avait des conditions qui étaient favorables à un développement potentiel de vie à l'époque où la vie est apparue sur Terre. Donc ces conditions favorables, on appelle ça l'habitabilité de Mars. Il y a 4 milliards d'années, 4,2, 3,8, etc., dans ces eaux-là, on avait des conditions habitables, en tout cas localement, à certains endroits de la planète Mars. Et notamment, les conditions d'habitabilité, c'est d'avoir de l'eau liquide, c'est d'avoir du carbone, mais aussi d'autres éléments qui vont permettre de former des molécules qu'on appelle organiques, donc qui contiennent du carbone, mais qui ne sont pas forcément liées à la vie. Et c'est également des conditions de pH relativement neutres, des conditions de salinité pas trop intenses. Et toutes ces conditions doivent être stables dans le temps à l'échelle du million d'années pour que des choses, de la chimie puissent se développer et éventuellement aboutir à une forme de vie.
Frédéric Schmidt, c'est quoi les plus grosses différences, les plus marquantes entre Mars et la Terre justement aujourd'hui alors ?
Entre Mars actuel et la Terre, ben, évidemment, les choses sont très très différentes. Donc la première chose, c'est la pression atmosphérique qui fait 10 millibars, alors qu'il fait 1 bar sur Terre. Donc la pression est 100 fois moindre. Et donc ça veut dire que l'eau n'est pas liquide aujourd'hui sur Mars. Il n'est pas possible d'avoir de l'eau liquide. Et donc ça change beaucoup de choses, évidemment.
Même en profondeur ?
Alors, en surface. Alors en profondeur, évidemment, la pression peut être suffisamment importante. Alors il y a effectivement un débat, une peut-être découverte sous la calotte sud de Mars, où effectivement on a pu trouver des indices qui laisseraient penser qu'il y a en fait un océan sous glaciaire. Donc ça, c'est une question ouverte. Mais en tout cas, en surface, c'est tout à fait impossible.
Donc la pression. Hein.
La pression, voilà, sa première différence, la pression. Et puis il y a une autre chose, c'est évidemment la température. On est plus loin du soleil. Et donc du coup, il fait plus froid. Ça fait une autre différence.
Le champ magnétique, la tectonique des plaques
hein. Alors le champ magnétique aussi. On a sur Terre un champ magnétique qui nous protège des rayons solaires. Sur Mars, probablement, ce champ magnétique était présent dans les premiers milliards d'années, mais ça fait 3 milliards d'années que c'est fini. Effectivement, la tectonique des plaques, c'est une très grande différence, puisque les paysages qu'on voit sur Terre, en fait, sont tous très récents.
Ils sont remodelés en permanence.
Voilà, ils sont remodelés en permanence, c'est la tectonique des plaques. Les montagnes, elles sont dizaines, des centaines de millions d'années, mais pas plus que ça. Sur Mars, en fait, rien n'a bougé depuis des milliards d'années. Donc, on a accès comme ça à des informations sur le passé de Mars.
Donc ça, c'est plutôt intéressant quand on est planétologue, justement, d'avoir une Terre qui n'a pas tellement fait une Terre, une planète comme Mars qui n'a pas tellement bougé, au fond.
Exactement. Pour chercher des informations de la Terre dans le passé, c'est très difficile. Il faut aller chercher des zones géologiques, parfois en profondeur. Et alors que sur Mars, en fait, on a accès à tout ça en surface. Donc en fait, évidemment, c'est très très intéressant d'un point de vue du planétologue.
Et pour revenir juste par rapport à la tectonique des plaques, il y a des reliefs sur Mars, beaucoup ou pas ? Est-ce qu'il y a des...
Ah oui, il y a des reliefs qui sont encore impressionnants que sur la Terre. On a en fait le plus grand volcan du système solaire qui est en fait effectivement sur Mars, c'est Olympus
Mons.
Voilà, et puis
il mesure combien ?
22 km je crois, c'est ça.
Mais et Mathieu, c'est Mathieu Vidard.
Mais je l'adore celui-là.
C'est vrai, c'est très impressionnant. Et puis du coup effectivement, il y a aussi un autre un demi-hémisphère en fait qui est très très bas, c'est le demi-hémisphère nord, avec justement ce potentiel océan qui aurait en partie rempli ce demi-hémisphère.
Caroline Frécinet, donc de belles bêtes hein, quand même sur Mars.
Ah bien sûr. Ouais. Et justement, on parlait de la surface qui est ancienne, et c'est pour revenir à la recherche de molécules, de la chimie, de la complexité qu'a pu atteindre la chimie sur Mars et éventuellement la biologie. Aujourd'hui, quand on regarde Mars, quand on creuse des échantillons qui ont 3,5 milliards d'années, comme c'est le cas avec Curiosity, le premier forage dont on parlait en tout début d'émission, dans le cratère Gale dans lequel on a atterri, ce cratère, il a plus de 3,5 milliards d'années. Quand on étudie un échantillon de ce cratère, on regarde Mars il y a 3,5 milliards d'années et on regarde s'il y a eu de la vie il y a 3,5 milliards d'années. C'est-à-dire qu'on regarde aujourd'hui Mars ancienne et on cherche des traces d'une vie passée sur Mars. On ne va pas chercher de la vie présente.
Allez, c'est le dossier de la Terre au carré, justement, parce que nous, on a envie de savoir s'il y a eu une vie possible sur Mars il y a quelques milliards d'années, justement, et pourquoi pas encore aujourd'hui, avec des découvertes qui font l'objet de ces deux publications de la semaine dernière. Et c'était Courtney Barnett sur France Inter.
La Terre au carré. Sur France Inter.
Mariner 4, la fusée cosmique américaine, a tenu en haleine tout le réseau d'écoute scientifique des États-Unis. Comme la vedette d'un film d'Hitchcock, elle a fait durer le plaisir. On a vécu des heures de suspense dans les laboratoires. Radars tendus comme des oreilles et caméras d'enregistrement grandes ouvertes comme des yeux inquisiteurs pour recevoir les clichés de la planète Mars, ce fameux astre rouge qui inquiète tant les hommes depuis sa découverte. Le verdict de Mariner 4 a rassuré le monde. Mars a la physionomie bonhomme de la Lune. L'effrayante invasion de la Terre par les Martiens n'est plus désormais qu'un conte pour enfants turbulents.
Voilà, on était rassurés dans les actualités françaises au sujet de Mars en 1965. La recherche de traces de vie, donc c'est le sujet de l'émission cet après-midi. Caroline Fraissinet et Frédéric Schmitt. Pourquoi la question de l'eau liquide sur Mars, Frédéric Schmitt, est encore un sujet de controverse pour la science? C'est ce que vous écrivez dans un article pour The Conversation.
Tout à fait, ben c'est un sujet de controverse parce qu'on parle de l'eau sur Mars, donc il y a 3 milliards d'années. Donc évidemment, il y a 3 milliards d'années, c'était il y a longtemps. Donc en fait, on n'a pas des preuves directes, hein, c'est pas facile. Et donc, il y a un argument majeur qui montre qu'il y a pu avoir de l'eau sur Mars, c'est une ligne de rivage. Donc cette ligne de rivage, elle a été découverte après les données vikings, en fait, dans les années 80 par Parker. Et du coup, ça a donné une première indication sur le fait qu'il pourrait y avoir un océan. Maintenant, la question, c'est s'il y a un océan, eh ben, il faut avoir en fait des conditions qui le permettent. On l'a dit, Mars actuel ne permet pas d'avoir de l'eau liquide. Il n'y a pas assez de pression, la température ne le permet pas non plus. Donc, il faut retrouver des conditions passées qui pourraient être compatibles avec de l'eau liquide.
Donc, il faut recréer le climat de l'époque.
Il faut recréer le climat de l'époque, exactement. Et donc, ben, c'est ce qu'on s'est attelé, la communauté scientifique s'est attelé à cet exercice-là depuis les années 80. Et jusqu'à présent, on n'a jamais réussi à trouver des conditions qui semblaient cohérentes avec un océan stable, une étendue d'eau stable. Et donc, c'est l'objet de cette publication.
Parce que là, précisément, vous avez recréé des conditions qui pourraient permettre de dire qu'il y a eu un océan il y a 3 milliards d'années. Ça fait l'objet de cette publication dans les PNAS. Hein.
Exactement. Donc, avoir de l'eau liquide, c'était possible en montant la température.
Donc quoi, en rapprochant du soleil, en fait.
Et donc, on va pas rapprocher Mars du soleil.
Non, mais
effectivement.
Est-ce qu'elle aurait pu s'éloigner?
C'est une très bonne question, mais c'est pas exactement comme ça que on arrive à monter la température. On arrive à monter la température en rajoutant des gaz à effet de serre. Donc, un gaz à effet de serre, c'est le CO2, on le connaît bien. Et donc, on pourrait avoir ici un bar de CO2, mais le CO2 ne suffit pas. Le CO2 ne permet pas, en fait, d'avoir une température suffisamment clémente. Donc on est obligé de rajouter un deuxième gaz à effet de serre, encore plus puissant que le CO2, c'est du H2, du dihydrogène. Et le dihydrogène permet en fait d'avoir des températures suffisamment clémentes. Donc effectivement, la température, c'est un premier point.
Mais l'océan que vous décrivez il y a 3 milliards d'années, il était situé dans les régions polaires en plus de Mars, c'est-à-dire qu'il fait vraiment très très froid.
Exactement, il fait vraiment très froid et donc il y a moins d'insolation, il y a moins de soleil dans les régions polaires, donc il fait froid et donc il faut trouver un moyen de le faire réchauffer. Donc un des moyens de le faire réchauffer, c'est aussi effectivement d'avoir des circulations dans cet océan. C'est-à-dire que l'océan n'est pas stable, l'océan va se déplacer comme avec des courants, hein, comme les océans terrestres. Et donc c'est bien ces courants qui vont aider à la stabilité de l'océan.
Mais je retourne ma question du coup de tout à l'heure. Qu'est-ce qui explique que ces conditions n'existent plus aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il n'y ait plus la bonne température, plus les bons gaz à effet de serre, plus tout ça?
Alors ça reste un mystère. On n'a pas en fait la réponse aujourd'hui à cette question. Donc il y a une possibilité, c'est qu'effectivement tous ces gaz, et notamment l'eau, s'est échappé. Et donc échappé dans le système, on va dire, interplanétaire. Sous l'effet du bombardement solaire, les molécules d'eau vont se dissocier et les molécules vont se détacher finalement de la planète. Et donc, on disparaît. Donc, ça, c'est une première option. Une autre option, c'est tout simplement que l'eau, finalement, est piégée à l'intérieur de Mars. C'est-à-dire que, en fait.
Elle sera encore présente?
Elle sera encore présente sous forme d'un pergélisol, voire peut-être même de l'eau liquide très en profondeur. Et donc, c'est effectivement quelque chose qu'on a essayé de chercher avec plusieurs techniques. Et nous, on n'a pas trouvé des indices pour l'instant avec nos techniques.
Frédéric Schmitt, si on parle d'un océan, donc si on l'imagine, nous étions sur Mars il y a 3 milliards d'années, il ressemblait à quoi cet océan par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui sur Terre? Ce serait quoi cet étendue du dos alors?
Alors, c'est un océan qui fait à peu près 16% de la surface de Mars. Et c'est à peu près 10 fois plus grand que la Méditerranée en termes de taille. C'est un océan qui fait à peu près 2-3 000 mètres de profondeur en moyenne, un peu comme la Méditerranée finalement. Et puis, c'est un océan effectivement qui circule avec donc des courants qui emmènent les eaux chaudes de la moyenne latitude vers les pôles pour les réchauffer. Et c'est cet océan-là qui du coup, est stable.
Vous dites que simuler le climat à une époque aussi lointaine, c'est vraiment pas une mince affaire. Apparemment, c'est extrêmement compliqué. C'est ce qui faisait aussi l'objet de la controverse, hein. C'est qu'on n'avait pas réussi justement à le faire convenablement. Aujourd'hui, est-ce que votre publication, justement, met tout le monde d'accord ou ça fait aussi l'objet de controverse, hein?
Alors ça c'est comment c'est reçu alors c'est difficile de le dire aujourd'hui évidemment le temps scientifique c'est toujours un temps long et donc une publication ne donnera jamais une réponse définitive donc il faut effectivement
mais comment vous réétudier. Le sentez vous alors moi je
pense qu'il y a effectivement des ingrédients qui n'ont jamais été testés qu'on a testés qui sont nouveaux qui sont vraiment intéressants et donc il y a effectivement cet effet de circulation le problème en fait c'était que si Mars était trop chaude finalement l'eau pouvait être stable, mais par contre, elle s'évaporait. Et finalement, elle s'accumulait sur les zones à haute altitude, dans les montagnes, sous forme de neige. Et donc, du coup, finalement, l'océan n'était pas stable. Et donc, nous avons proposé un nouvel ingrédient qui consiste à dire que finalement, l'eau peut redescendre avec des glaciers. Donc ça, c'est un nouvel ingrédient. Et l'autre nouvel ingrédient, c'est le fait que l'océan puisse circuler. Avant, les modèles ne pouvaient pas simuler ça. Alors, c'est vrai que ça paraît simple, mais en fait, c'est très difficile d'un point de vue de la simulation, parce que les courants océaniques sont très lents. Et donc, du coup, simuler à la fois des courants atmosphériques qui sont très rapides et des courants océaniques qui sont très lents, c'est extrêmement difficile. Et donc, ça a été l'objet de cette avancée.
Très bien. Caroline Frayssinet, évidemment, vous avez entendu parler de cette publication qui est sortie la semaine dernière dans les menaces. Comment c'est reçu? Alors, en général, ça discute dans la communauté scientifique. On se dit, voilà, c'est quelque chose de nouveau qui est proposé. Ça réécrit finalement l'histoire de la planète Mars.
Oui, c'est intéressant parce que finalement, c'est d'avoir des étendues d'eau plus longues que ce qu'on aurait pu imaginer. Il y avait un papier en 2015 par une équipe américaine menée par Geronimo Villanueva. Non, Frédéric, t'as sûrement entendu parler, qui regardait en fonction de l'échappement atmosphérique modélisé et observé depuis la Terre, qui regardait quelle quantité d'eau il pouvait y avoir, mais il y a 4 milliards d'années. Donc, à une époque où on savait qu'il y avait de l'eau liquide sur Mars, et donc il avait cette hypothèse d'océan dans les mêmes latitudes, mais à une autre époque, donc à une époque où Mars était probablement plus chaude et on imagine plus humide. Et donc, cet océan qui couvrait jusqu'à 19% de la planète est beaucoup moins controversé parce qu'on sait que c'est une époque où l'eau peut être beaucoup plus stable à la surface. On avait une atmosphère qui était beaucoup plus dense. On sait aujourd'hui qu'on a quelque chose comme 0,1% de l'atmosphère résiduelle aujourd'hui par rapport à ce qu'elle était dans le passé de Mars. Et donc, on sait qu'on avait des lacs, des rivières. On a tous ces indices à la surface de Mars avec même des tsunamis sur Mars. Et on a les indices géologiques qui le montrent. Mais ce dont discute Frédéric, c'est vraiment une étendue d'eau liquide qui dure plus longtemps que ce qu'on avait établi jusqu'à présent. Donc de 4, on passe à 3 milliards d'années, ce qui augmenterait énormément les conditions d'habitabilité à la surface de Mars.
Eh bien, nous continuons la discussion dans un instant. On aura même des questions pour vous de la part des auditeurs pour parler donc de ces recherches de signatures de vie sur la planète Mars.
France Inter. La Terre au carré.
Et à 14h30, on passe au vert.
Et direction le Pérou, touché depuis 10 jours maintenant par une sacrée marée noire dans la région de Lima. 6000 barils de pétrole, ça fait presque 1 million de litres. Dans l'eau et sur les plages. Les images associées, on les connaît malheureusement par cœur, des classiques avec nettoyage au milieu des vagues et du sable gluant et oiseaux mazoutés, morts pour beaucoup. Mais les soigneurs de ce zoo, par exemple, tentent aussi d'en sauver.
Nous faisons un effort énorme. Ça n'est pas courant, nous essayons de faire du mieux que nous pouvons, mais on ne peut pas dire que pour l'instant, tous les animaux qui sont arrivés ici seront sauvés ou guéris. Parce que c'est un processus assez long.
Et puis un autre soigneur explique de toute façon que si la marée noire continue, il va évidemment y avoir un danger parce que le problème n'est pas juste les animaux englués et couverts de pétrole. C'est aussi que certains se nourrissent d'animaux plus petits, que ce soit des crustacés ou des poissons, qui sont eux aussi contaminés. Donc ils meurent en quelques jours à cause du pétrole dans leur organisme. Les poissons d'ailleurs, catastrophe aussi, bien sûr, y compris pour les pêcheurs artisanaux au marché.
Rien n'est vendu. Le poisson dégage surtout une odeur de pétrole et les gens ne le consomment pas parce qu'ils ont peur de s'intoxiquer.
Plus de 300 hectares touchés entre la mer et la terre et 2 aires naturelles protégées menacées au nord parce que le pétrole se déplace. Le président péruvien Pedro Castillo a signé samedi dernier un décret d'urgence environnementale pour 90 jours face à ce qu'il a qualifié d'une des plus inquiétantes catastrophes écologiques sur ses côtes. Il compte bien faire payer ceux qui en sont à l'origine.
Il s'agit de ne pas fuir ses responsabilités. Il s'agit de les assumer. Et dans ce cas, nous attendons de l'entreprise qui a provoqué la catastrophe écologique, qu'elle prenne ses responsabilités.
Alors j'arrive aux causes de cette marée noire justement. Le pétrole était à bord d'un énorme tanker de 274 mètres de long, le Mare Doricum, battant pavillon italien et appartenant au géant espagnol des hydrocarbures, Repsol, qui explique dans un communiqué que le déchargement des barils était en cours depuis le 14 janvier et que, je cite, la situation a été provoquée par les marées hautes enregistrées à cause de l'éruption volcanique au Tonga le lendemain. Autrement dit, c'est la faute au volcan. Alors, il est vrai, je vous en avais parlé, que l'éruption a été très puissante et a provoqué des tsunamis, mais la marine de guerre péruvienne trouve que la houle a un peu bon dos. Des enquêteurs sont sur place à la raffinerie et pencheraient eux plutôt pour une action négligente d'un employé, voire une manœuvre brusque du tanker. Mais Repsol se dédouane complètement quand un journaliste demandait il y a quelques jours à la porte-parole
se considera responsables del desastre ecológico ocurrido?
S'il s'estimait responsable, donc, réponse
Non.
On ne cautionne pas ce désastre écologique, mais je ne peux pas dire qui est responsable. En tout cas, des manifestants disent à Repsol de se bouger, prendre les choses en main. Des employés sont en train de nettoyer, en plus de bénévoles partout sur les plages. Pendant que l'enquête pour pollution environnementale se poursuit, l'État va être inflexible, prévient le gouvernement, avec une possible amende de plus de 30 millions de dollars à la clé pour Repsol.
Et c'était Camille Passauvert que vous pouvez réécouter sur la page de La Terre au Carré.
Est-ce que on peut imaginer, vous parliez tout à l'heure, Caroline Fraissinet, de tsunami. Je rebondis là sur l'histoire du volcan plus que de la marée noire. Des tsunamis comme ça qui ont fait presque le tour de Mars.
Oh bon après,
ah, c'est plutôt
je
vous,
vois
Frédéric.
Frédéric voudrait répondre.
Je veux bien prendre cette question. Effectivement, les histoires du tsunami. En fait, effectivement, c'est une très bonne question. Les tsunamis, on en a observé sur Mars. Alors, comment c'est possible d'avoir des tsunamis il y a 3 milliards d'années? C'est parce qu'en fait, on voit des tsunamites. Alors, ça s'appelle comme ça pour les géologues. En fait, on voit des traces dans les paysages de coulées qui remontent les pentes. En fait, les coulées, ça remonte jamais la pente. Et donc, effectivement, un tsunami, ça remonte les pentes. Et donc, ça a été un des arguments justement pour cet océan tardif, il y a 3 milliards d'années.
Un méga tsunami.
Alors certains proposent même deux. Et donc effectivement, notre équipe a étudié beaucoup figurés géomorphologiques et a aussi essayé de déterminer un âge. Et donc on a pu déterminer le cratère qui serait à l'origine de ces tsunamis. Donc c'était un impact, c'était pas un volcan, un impact. Et effectivement, ça a été daté il y a 3 milliards d'années. Donc c'est aussi un argument pour un océan tardif.
Allez, direction Mars cet après-midi dans La Terre au Carré. Et vos questions sur franceinter.fr.
Jeune flamme orageuse, solitaire, héroïque, disperse dans l'océan. Ces poèmes organiques, l'azur fou de tes yeux, m'a lancé un défi, et je lèche le sang de cruels ennemis. Nul besoin de me démasquer, car je ne ressemble à aucun de tes ex. Nul besoin de me contaminer, de m'intoxiquer par ton virus ex. Virus ex, virus ex. Ton cœur bat la chamade, zigzag les yeux bandés. J'échappe à l'embuscade, le plus sûr des réflexes serait de vite fait tracer. Nul besoin de me démasquer, car je ne ressemble à aucun de tes ex. Nul besoin de me contaminer, de m'intoxiquer par ton virus ex. Virus X, Virus X. contaminé, de m'intoxiquer par ton virus ex. Du haut de Saint-Vincent, les gargouilles nous surveillent. Virus Saint-Malo, rose pâle, virus déclin, se réveille. Nul besoin de me contaminer. Saint-Malo, rose pâle, virus se déplie, se réveille. Virus X, virus X.
Et la voix d'Étienne Dao, bien sûr.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard et Camille Cronier, sur France Inter.
Ces étranges traînées sombres sur des pentes de cratères à la surface de Mars, analysées depuis un satellite, révolutionnent nos connaissances sur la planète rouge. Quelques centaines de mètres de long, 5 mètres de large, elles apparaissent en été face au soleil et disparaissent en hiver. Aucun doute pour la NASA, c'est bien de l'eau sous forme de saumure.
Pour la première fois, on voit un processus où l'eau liquide est impliquée à la surface d'une planète haute que la Terre. Et ça, c'est ça qui manquait. Là, on a vu un phénomène où finalement de l'eau saturée en sel s'écoule à la surface. On sait que c'est un processus très éphémère, ça représente très peu d'eau.
De l'eau sur Mars, de là à imaginer des traces de vie, rien ne l'indique pour l'instant, c'est encore une idée de science-fiction.
Voilà, France 3 en 2015, c'est important, avec la voix de William Rapin qui était doctorant à l'Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie. Et justement, on y perd un peu son latin, Frédéric Schmitt, concernant la présence d'eau liquide sur Mars, parce qu'il y a des effets d'annonce de la NASA, Tony Truant, tout le monde en parle. Et puis finalement, quelques années plus tard, on revient sur les annonces en disant bah finalement, non, il n'y avait pas d'eau liquide. Et là, c'en est un exemple. Hein. En 2015, on nous affirmait qu'il y avait des traces d'eau liquide sur la planète Mars.
Tout aujourd'hui. À fait. Le temps de la science est toujours un temps long. Alors effectivement, il y a toujours des effets d'annonce. Il y a aussi des effets d'annonce sur la découverte de la phosphine, de la vie sur Vénus. Vous avez certainement entendu. Voilà.
On en avait parlé.
Voilà. Et donc, du coup, bah, forcément, il y a des découvertes intéressantes. Après, bah, la communauté scientifique s'en empare et investigue et effectivement il y a certaines preuves qui finalement ne tiennent plus.
Donc il n'y a pas d'eau liquide, on est pour l'instant.
Et donc l'eau liquide sur Mars, effectivement on parle de plein d'eau différentes. En fait il y a de l'eau actuelle, il y a de l'eau passée et donc je comprends qu'on peut un peu s'y perdre. Et donc effectivement ces écoulements qui ont été découverts en 2015, c'était intéressant parce que c'était de l'eau supposée liquide aujourd'hui. Et donc on pourrait prendre un verre d'eau et récupérer un peu de cette eau et la boire si on était au bon endroit au bon moment. Oui. Et donc, évidemment, si c'était le cas, c'était quelque chose de révolutionnaire. Et donc, effectivement, les investigations futures ont montré que finalement, probablement, c'était quelque chose tout à fait à sec, très particulier, mais pas du tout associé à de l'eau liquide.
Caroline Fressinet, si je vous demande s'il y a de l'eau sur Mars, vous allez me dire oui, il y a de l'eau sur Mars.
On a de l'eau sur Mars. Mars, c'est pas une planète sèche aujourd'hui. C'est une planète qui a perdu une majorité de son eau, ou en tout cas, on ne sait pas où elle est passée. Elle peut être en profondeur, etc. Mais par exemple, on parlait tout à l'heure de la découverte de poches d'eau liquide, alors plus des saumures, plus des sortes de boue dans le sous-sol des calottes sud. Donc oui, on a cette eau sous forme plus ou moins liquide et plus ou moins mélangé à des sels pour tenir justement à ces températures sous forme liquide. On a également les calottes polaires, hein, qui sont constituées de glace de CO2, mais également de glace d'eau. Donc on a de l'eau au niveau des calottes. Et on a le sol. Le sol, on a des argiles. Les argiles sont des sortes de boue avec de l'eau. Par exemple, dans le cratère Gale, là où Curiosity
explore le sol,
hein. depuis 10 ans, on a une moyenne de 2% en eau. 2%, c'est-à-dire que sur un mètre cube de sol, on va avoir 20 litres d'eau. Ce qui est quand même une quantité non négligeable. On pourrait imaginer que des astronautes puissent devoir extraire cette eau. Alors, c'est pas une eau qui est disponible sous forme liquide. C'est une eau qui est absorbée sur les minéraux. C'est une eau qu'il faut extraire et traiter pour pouvoir...
Donc, on n'a pas de rivière martienne.
Pas de rivière.
Hein.
Ouais. Et récemment, le mois dernier, une équipe russe a publié un article avec une détection par ExoMars 2016. Donc, c'est le Trace Gas Orbiter, le TGO, qui est un orbiteur qui tourne autour de la planète et qui étudient le sol, et a détecté au niveau du Grand Canyon de Mars, donc qui s'appelle Valles Marineris, a détecté des hydrogènes, donc des atomes d'hydrogène, qui seraient liés à la présence d'eau, parce que l'eau c'est H2O, donc c'est deux atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène. Et donc en détectant ces hydrogènes et en imaginant que tout cet hydrogène proviendrait de l'eau, on aurait jusqu'à 40% de contenance en eau dans le sol au niveau de l'équateur, donc quelque chose qui n'était pas imaginable jusqu'à aujourd'hui. Donc encore un grand mystère, mais si on a 40% d'eau, là on
c'est
est
pareil,
à 400 litres par mètre cube, donc c'est énorme.
Mais pour revenir, Frédéric Schmitt, sur ce qu'on disait sur les annonces tonitruantes, on a trouvé de l'eau liquide là, maintenant, tout de suite. Si je suis ce que vous disiez tout à l'heure, ma question serait peut-être un peu bête, mais je vous la pose quand même. Vous disiez, de toute façon, avec les conditions notamment de pression, c'est impossible qu'il y ait de l'eau liquide sur Mars aujourd'hui. Donc à quoi ça sert de chercher de l'eau liquide si de toute façon la pression ne le permet pas? Ça, je comprends pas.
Alors, c'est de l'eau liquide en surface. Donc effectivement, si on est en profondeur, il peut y avoir de l'eau liquide. Alors par contre, effectivement...
Donc là, ça veut dire que c'est sûr qu'en surface, on ne trouvera
surface,
jamais d'eau liquide.
Elle n'est,
par
elle
contre,
n'est pas
peut-être
stable.
En profondeur.
Alors si elle n'est pas stable, ça veut dire que finalement, elle boue. Donc on peut prendre un morceau d'eau liquide, le mettre à bonne pression et température et le mettre sur Mars. Donc il est liquide, mais il ne va pas rester très longtemps. Et donc c'est en ce sens-là qu'il est instable. Ça va, en quelques secondes, en fait, finalement, ça va bouillir et va s'en aller. Donc on pourrait le faire technologiquement, ce ne serait pas très intéressant. La question, c'est est-ce que naturellement, il y a un processus qui permet de faire ça. Et donc ça, c'est très très improbable, c'est très difficile à faire.
On va écouter un message de Benoît qui vient de nous appeler sur l'appli France Inter pour vous.
Oui, bonjour, Benoît de Rennes. Si de l'eau liquide pouvait être présente sur Mars, elle ne pourrait être présente qu'en profondeur. À quelle profondeur, du coup, devrait se situer cette eau liquide pour pouvoir se maintenir de manière stable sur Mars? Et une deuxième question, si la vie était apparue sur Mars, est-ce qu'elle aurait pu survivre dans de telles poches en profondeur, sachant que l'environnement serait complètement clos et la lumière du soleil serait parfaitement absente? Merci.
Merci Benoît pour ces compléments avec vos questions. Alors sur la profondeur de l'eau liquide, qui veut répondre?
Alors la profondeur de l'eau liquide, ça va être quelques dizaines de mètres au minimum, mais souvent c'est même plus que ça. En général, effectivement, les on va dire les candidats qu'on a trouvés, c'est plutôt des kilomètres de profondeur à l'échelle donc en dessous de la calotte polaire sud.
Et on peut imaginer un océan sous...
Alors alors c'est très
comme sur certains satellites d'autres planètes du système solaire.
Tout à fait. Alors ça c'est totalement exclu. Donc c'est quelque chose qui existe effectivement dans les satellites de glace sur Europe par exemple. Mais par contre sur Mars c'est pas possible.
Et alors sur la deuxième question, Caroline Tressier, vous voulez répondre à Benoît?
Oui, c'est une très très bonne question parce que effectivement quand on dit on recherche des traces de vie passée, donc on va imaginer que si la vie est apparue sur Mars, encore une fois je dis bien si la vie est apparue sur Mars parce qu'on n'a aucune indication qu'il le montre aujourd'hui, que ce serait il y a 4 milliards d'années et donc qu'elle aurait disparu et qu'on chercherait des traces aujourd'hui d'une ville il y a 4 milliards d'années. Mais c'est vrai qu'on peut complètement imaginer qu'elle soit apparue il y a 4 milliards d'années et qu'elle ait survécu dans des poches de profondeur. Alors elle ne se serait pas développée comme sur Terre jusqu'à des formes macroscopiques. Elle aurait pu survivre en profondeur l'énergie qui serait utilisée pour qu'elle se développe, ce serait de l'énergie qui serait due aux minéraux et pas forcément à l'énergie du soleil. Aujourd'hui sur Terre, on trouve des formes de vie absolument partout, que ce soit en surface avec de l'énergie solaire, que ce soit dans des mines à plusieurs kilomètres de profondeur, on trouve des formes de vie ou sous l'océan au niveau de l'interface entre l'océan et donc le plancher océanique, on trouve ces formes de vie et on peut imaginer que des vies qu'on appelle extrémophiles auraient pu survivre sur Mars dans des poches de profondeur.
Emma sur franceinter.fr demande s'il serait possible, envisageable de recréer des conditions d'habitabilité à l'échelle de la planète Mars, Frédéric Schmitt.
Terraformer Mars.
Ouais.
Voilà qui plaît beaucoup aux milliardaires américains.
C'est un très bon jeu aussi, Terraforming Mars. Si vous vous abusez.
Exactement, très bon jeu, mais par contre, effectivement, ça n'est qu'un jeu. Alors, c'est un rêve éveillé. On n'est même pas capable aujourd'hui de gérer les 0,04% de CO2 sur la Terre. Alors vous imaginez que terraformer Mars, on est très très loin de ça. Donc en fait, ça n'existe pas, ça n'est pas possible.
Caroline Fressinet, l'autre découverte également publiée dans PNAS, parce qu'il faut quand même qu'on en parle. Alors elle nécessite d'être très très prudent là aussi, parce que même la NASA, qui aime beaucoup les effets d'annonce, comme on l'a vu, a pris quand même des petites pincettes pour annoncer l'information. Alors de quoi s'agit-il? Autour du carbone précisément. Qu'est-ce qu'on a retrouvé là?
Oui, alors déjà, la NASA a pas forcément pris trop de pincettes dans son communiqué. Il faut savoir que les personnes qui font les communiqués de presse...
Ils
aiment bien les effets d'annonce. Ouais. Ce sont pas les mêmes personnes qui font les articles, même s'il y a une certaine interaction. Les communiqués sont faits par
les
headquarters, les services de com. Il faut qu'il y ait cet effet d'annonce par rapport aux articles, où on est beaucoup plus prudent dans les articles. Ce sont les scientifiques qui émettent des hypothèses.
Et donc, alors, effet d'annonce, contenu. Alors,
donc, effet contenu. On va parler plutôt contenu que effet d'annonce, parce que c'est ce qui va nous intéresser un petit peu plus. Donc, on a trouvé sur des échantillons qui ont été analysés depuis 10 ans par Curiosity, donc c'est des réanalyses de données. On a vu des molécules de méthane. Donc, le méthane, c'est une molécule assez simple, constituée de carbone et d'hydrogène. Et le carbone de ce méthane est léger. C'est ce qu'on appelle les isotopes du carbone. On va expliquer un tout petit peu simplement ce que sont les isotopes. Le carbone, c'est un élément, c'est un atome qui va être constitué donc de protons et de neutrons. Le nombre de protons est défini l'atome en lui-même. Donc le carbone a 6 protons. Par contre, le nombre de neutrons va pouvoir varier. Un carbone qui a 6 protons et 6 neutrons, 6 plus 6 ça fait 12, c'est du carbone 12. Un carbone qui a 6 protons et 7 neutrons, 6 plus 7 c'est 13, c'est du carbone 13. Et le carbone 13, puisqu'il a un neutron de plus, il est plus lourd que le carbone 12. Et ces deux isotopes, le carbone 12 et le carbone 13, sont présents dans un certain ratio entre les deux. Et lorsqu'on a des systèmes vivants, les systèmes vivants sont fainéants et vont utiliser les atomes plus légers, donc plus de carbone 12 que de carbone 13, et vont créer ce qu'on appelle un fractionnement isotopique. C'est-à-dire qu'on va avoir un enrichissement en carbone 12 par rapport au carbone 13.
Mais ça nous dit quoi de la vie alors? Parce que c'est ça qui est intéressant. Quand on trouve ces traces de carbone 12 sur Mars, ça nous dit quoi d'un possible processus biologique? Parce que sur Terre, ce carbone 12, il est associé à de la vie, hein, c'est ça?
Et c'est ça. Et ben, ça nous dit rien sur Mars, parce que sur Terre, effectivement, un enrichissement en carbone 12 par rapport à un carbone 13, ça va être lié à la vie. Malheureusement, sur Terre, on a très peu d'environnements qui n'ont pas été altérés par la vie. Donc, on ne sait pas un système chimique sans vie, qu'est-ce que ça peut donner? Est-ce qu'on va pouvoir avoir cet enrichissement dans un système qui est ce qu'on appelle abiotique, donc qui n'a strictement rien à voir avec la vie?
Oui, mais pardon, mais alors en quoi ça vous met la puce à l'oreille, entre guillemets, cette découverte sur Mars?
Donc, cette découverte sur Mars, c'est qu'on a, sur certaines roches, on a un enrichissement en carbone 12 par rapport à un carbone 13. Donc, une des hypothèses ce qui est possible, si on extrapole par rapport à ce qui se passe sur Terre, ça va être un système vivant martien qui aurait pu créer cet enrichissement. Mais c'est qu'une hypothèse parmi beaucoup d'autres.
Il faut le prouver.
Il faut le prouver. Il faut prouver qu'il n'y ait aucune autre hypothèse qui explique le phénomène, en sachant qu'on a d'autres hypothèses qui sont plus crédibles que celles de la vie. Et comme c'est expliqué dans le papier, même si l'hypothèse de la vie est envisagée dans le papier pour créer ce fractionnement, il manque des explications. C'est-à-dire qu'il y a des observations supplémentaires qui sont faites et certaines de ces observations ne concordent absolument pas avec l'hypothèse de la vie pour créer ce fractionnement. Donc c'est une hypothèse. Il y en a 4 qui sont présentées dans le papier. Et l'hypothèse de la vie, elle est un petit peu mise en retrait par rapport aux autres parce que c'est la moins probable.
C'est ça.
Par rapport
et d'ailleurs, les scientifiques font ce travail de contredire l'hypothèse de la vie de trouver tous les éléments qui montrent que il ne s'agit pas de la vie.
Bien sûr.
Et ça, c'est vraiment la démarche aussi de la science.
Hein. Exactement.
Voilà.
Et c'est ça qui est intéressant aussi dans ce papier, c'est qu'on on a 4 hypothèses qui sont envisagées et aucune des hypothèses ne correspond 100% aux observations. Donc, c'est-à-dire qu'on a une observation, on a ce fractionnement isotopique, et malheureusement, on n'a pas d'explication qui prennent en compte toutes les observations. Il y a un bug sur chacune des hypothèses.
Bon, en tout cas, on a des bons éléments pour la vie là. Depuis notre début de discussion entre l'eau liquide et le carbone, Frédéric Schmitt, on a quelques briques du vivant là quand même, non ?
On a quelques briques du vivant. Alors effectivement, il y a 3 milliards d'années, hein, il faut bien le rappeler, hein, voyageons dans le temps et dans l'espace, dans ces journées d'hiver. Et donc effectivement, il y a 3 milliards d'années, il pourrait y avoir effectivement des conditions propices. Alors, quelles sont les conditions nécessaires et absolument suffisantes pour la vie? On ne les connaît pas. Une des conditions nécessaires, c'est probablement de l'eau liquide. Donc effectivement, un océan, ça semble être une première condition. position, mais est-ce que c'est suffisant? Pour l'instant, la question est entièrement ouverte.
Allez, on revient vers vous. D'autres questions pour terminer cette discussion martienne après Paolo Conte.
Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful. It's wonderful, I'd remove you. Chips, chips, da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. Yeah. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo.
Et c'était Via Conme, Paolo Conte.
France Inter. La Terre au carré.
Le planétologue Frédéric Schmitt et la chercheuse Caroline Frayssinet pour nous parler donc de la recherche de traces de vie sur Mars. Frédéric Schmitt, j'aimerais bien que vous nous expliquiez quand même comment cet océan que vous avez décrit et donc probablement découvert, ayant appartenu à la vie martienne il y a 3 milliards d'années, aurait disparu. Alors on a des hypothèses solides sur l'évaporation de cette eau dont vous avez dit quand même que ça représentait quoi, 10 fois la Méditerranée, c'est ça?
C'est ça, 10 fois la Méditerranée. Alors c'est une très bonne question parce que ça c'est un grand mystère. En fait, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Et donc pour remplir cet océan, on a besoin d'une certaine quantité d'eau. En général, on parle de couches équivalentes. Donc qu'est-ce qu'on fait? En fait, on prend toute l'eau et on va recouvrir la planète entière avec cette eau. Et il faut une certaine hauteur d'eau. Et donc là, on a besoin de 150 mètres. C'est-à-dire que si on prend l'océan et on prend cette eau et on la recouvre sur tout Mars, on a besoin d'un 150 mètres de hauteur. Et aujourd'hui, si on prend tous les glaciers, toutes les glaces dont on est sûr, toute l'eau dont on est sûr sur Mars, on obtient seulement des dizaines de mètres. Donc en fait, il y a un manque. Si on fait cet exercice-là sur la Terre, on a 2000 mètres d'eau qui recouvrirait la planète entière. Et donc on voit qu'il y a déjà beaucoup moins d'eau sur Mars que sur Terre, on parle de beaucoup moins d'eau. Mmh. Et effectivement, il y a une partie significative de cette eau qui a disparu.
Et on ne sait pas pourquoi.
Et donc l'échappement, c'est une des explications. Donc il y a une sonde Maven américaine qui a étudié la très haute atmosphère martienne.
L'échappement, ça veut dire quoi?
Et donc l'échappement, c'est-à-dire que finalement, les molécules ne sont plus attachées gravitationnellement à Mars. Et donc en fait, les molécules s'échappent.
Ouais.
Tout simplement. Et donc, on pensait que c'était pas possible. Et donc, cette mission Maven a étudié le Soleil pendant des périodes intenses du Soleil. Le Soleil, il a une activité qui n'est pas du tout constante. Il y en a des périodes intenses. Et pendant cette période intense, on s'est rendu compte que l'échappement sur Mars était relativement efficace. Et donc, l'échappement...
C'est une hypothèse.
C'est une hypothèse tout à fait probante.
On va écouter le message vocal de Thomas pour terminer.
Est-ce que, toute chose égale par ailleurs, l'évolution de la vie sur Terre pourrait-elle amener aux résultats qu'on connaît aujourd'hui sur Mars? C'est-à-dire le néant, plus rien, et finalement, est-ce que Mars n'est pas le reflet de l'avenir de la Terre?
Ah, Alors, Caroline Frayssinet, est-ce qu'on pourrait imaginer une planète totalement sèche sur Terre comme ce que vit aujourd'hui Mars ?
Bah après, chaque planète est unique. On voit par exemple Vénus, la Terre, Mars ont eu des destins très différents. Vénus, une fournaise avec une atmosphère très dense, la Terre telle qu'on la connaît, et Mars qui a perdu son atmosphère et donc qui s'est asséché, etc. Après, les destins à long terme des planètes, c'est quand même difficile de prévoir, mais c'est intéressant de faire de la planétologie comparée, de voir en fonction des conditions de l'une et de l'autre de planète, à quoi on peut aboutir sur la Terre.
Frédéric Schmitt, on pourrait faire une modélisation de ça ou pas ?
Alors, on pourrait faire une modélisation, et donc effectivement, la géophysique nous indique bien que en fait, la taille est très importante. Mars est plus petite, donc elle a refroidi rapidement, et du coup, elle est plus froide. C'est pour ça qu'il n'y a pas de tectonique du plaque. Sur Terre, on est effectivement sur une planète plus grosse, donc en fait, elle prend plus longtemps à refroidir. Donc, ce point de vue-là, Mars est un petit peu en avance. Par contre, ce qu'on a vu clairement, c'est que la vie se développe partout à partir du moment où elle est apparue sur Terre. En fait, tous les écosystèmes sont remplis de vie. Et donc, ça, c'est pas du tout ce qu'on trouve sur Mars.
Merci beaucoup à tous les deux. Prochaine échéance importante pour l'Europe, ce sera la mission ExoMars, décollage de Baïkonour en septembre prochain. Et vos parachutes, puisque vous allez y participer, on n'a pas le temps d'en parler, Caroline Frayssinet, mais tout va bien apparemment.
Tout va bien, les derniers essais sont concluants.
Donc, vous avez des parachutes qui vont partir sur Mars. Et ça aussi, franchement, ça a de la gueule. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'être venus aujourd'hui dans la Terre au Carré.